28 octobre 1983, métaphysique sur la personne, Père Marie-Dominique Philippe Rimond.
La dernière fois, j'ai commencé à vous montrer comment ce problème métaphysique de la personne était important pour nous et en même temps difficile. Important parce que, de fait, la grande philosophie réaliste, la métaphysique, la philosophie première, n'a pas du tout développé ce problème. Il faut le voir. On a laissé complètement ce problème de côté. Ce problème s'est développé chez les théologiens, nous aurons l'occasion de le voir, parce que je crois qu'il est bon de voir le problème de la personne chez saint Thomas, et là on insistera pas mal, je crois que c'est bon d'essayer de saisir un peu le problème de la personne chez saint Thomas, ça vous aidera pour la théologie de la très sainte Trinité, et pour la théologie du Verbe incarné. Mais ça n'a pas été transmis à la philosophie. La scolastique, regardez chez Wolff, la scolastique traditionnelle n'a absolument pas introduit dans le cours de philosophie première le problème de la personne. C'est intéressant, du reste, de se poser le problème. Enfin, il y a un oubli, si vous voulez. On dirait, à la manière de Heidegger, il y a eu un oubli de la personne au niveau de l'être. On n'a pas regardé la personne dans la lumière de l'être. On a laissé la théologie développer le problème de la personne. Saint Thomas l'a fait d'une façon magnifique, ça c'est... C'est une des grandes originalités de saint Thomas. Quand on cherche l'originalité de saint Thomas, on regarde toujours l'essai. C'est pas vrai. C'est le bien et c'est la personne. Là, on trouverait l'originalité de saint Thomas. Mais je crois que ça, il faut être attentif à ça. Plus vous étudiez saint Thomas, plus vous voyez Aristote, plus vous essayez de comprendre ce que c'est que la philosophie, il faut essayer de voir les originalités propres de saint Thomas. Qu'est-ce que saint Thomas a apporté au point de vue de la pensée? Et pas faire porter. Pas faire porter l'originalité de saint Thomas sur des questions qui sont pas vraies. Hein. On a voulu ces derniers temps, à cause de l'existentialisme, hein, on a voulu faire porter l'originalité de saint Thomas sur l'essai, en disant que cet essai que saint Thomas donnait était tout à fait différent du problème d'Aristote, ce qui n'est pas vrai. Je crois que c'est absolument impossible de dire qu'il y a un problème nouveau de l'essai chez saint Thomas. Il y a une extension, mais pas une compréhension. Tandis que du côté du bien et du côté de la personne, là, il y a quelque chose d'original. Il y a quelque chose d'intéressant à bien voir. Alors, voyez la question qui se pose. Pourquoi les théologiens qui ont développé tellement la personne, pourquoi ce problème de la personne est resté du côté des théologiens? Et on a continué de faire la métaphysique d'Aristote, toujours de la même façon. Et la métaphysique d'Aristote a continué de se développer toujours au niveau de l'être, au niveau des transcendentaux. Et c'est vrai, c'est les transcendentaux qui ont été comme la clé de voûte de toute la métaphysique classique, traditionnelle. Et on n'a pas introduit dans la philosophie première le problème de la personne. Alors pourquoi? Il y a des problèmes qu'il faudra se poser, vous voyez. Parce que quand on voit un oubli, il faut toujours se demander pourquoi il y a cet oubli. Alors ça, c'est un fait. C'est facile à constater. Regardez la dernière métaphysique scolastique, le père de Finance, et vous ne voyez pas le problème de la personne présent dans cette métaphysique, dans cette philosophie première. Donc, il y a eu un oubli. Cet oubli a eu une grosse conséquence. On ne peut pas, quand on pense un peu, et quand on essaie de réfléchir sur l'homme, on ne peut pas oublier complètement la personne. Et alors, de fait, ce problème a été pris par les psychologues. C'est les psychologues qui ont développé ce problème-là. Ou certains philosophes au niveau politique. Alors vous voyez des efforts comme Mounier, si on le peut, on le verra bien, parce que c'est intéressant de voir l'effort de Mounier, surtout de voir ensuite comment cet effort de Mounier est tombé complètement. Les successeurs de Mounier, c'est la revue Esprit, c'est pas tout à fait Mounier. Il y a eu quand même quelque chose qui est parti dans un sens très différent. Et face à Mounier, il y a eu Maritain. Maritain a eu le mérite, il faut le reconnaître, il a eu le mérite de mettre en lumière ce problème de la personne. Alors que les bons scolastiques, et là je pense, bon scolastique, le père Garrigou-Lagrange, il faut regarder les scolastiques du temps de Maritain, tu vois, Garrigou-Lagrange, au fond continuer de spéculer sur l'être. Et la personne apparaissait en théologie, mais pas en philosophie. Alors, il y a eu, vous voyez, un creux, un vide, la nature horreur du vide. Alors ça s'est précipité, le problème psychologique. Et on voit encore aujourd'hui que le problème psychologique veut à tout prix arriver au problème de la personne. Alors la question qui se pose, et une question qui se posera et que nous devrons résoudre, parce que ce serait intéressant ensemble, peut-être, si on a le temps, je le ferai bien, parce que je crois que ça vaudrait la peine. Vous savez qu'il y a certaines psychologies aujourd'hui qui font un peu fureur, jusque dans les foyers de charité. Alors, il faudrait regarder cette psychologie sur la personne, si c'est vrai ou si c'est faux. Parce que vous serez affronté à ces problèmes. Alors, il ne s'agit pas d'avoir un a priori. Il s'agit de comprendre. Est-ce que la psychologie peut atteindre vraiment le problème de la personne? Ou si la psychologie prétend résoudre le problème de la personne, elle ne peut que le résoudre d'une façon matérielle. Elle ne peut pas saisir vraiment le problème de la personne. Elle le saisit d'une façon extrinsèque et matérielle. C'est ça le danger. Donc elle le saisira, si vous voulez, comme le sujet, le suppôt, et même le saisira comme une chose nécessaire qu'on doit poser, mais elle ne saisit pas ce que c'est que la personne, dans ce qu'elle a de propre. Et ceci, vous voyez, c'est parce que de fait, et c'est très normal, si la philosophie première n'a pas traité de la personne, si elle a laissé le problème de côté, c'est normal que la psychologie sente la nécessité d'arriver à unifier le moi psychologique pour arriver à un moi personnel. Vous voyez le passage du moi psychologique au moi personnel. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement quand vous dites un moi personnel ? Et de là, quand vous dites le moi personnel et la personne, il y a un petit passage là qui est très important à voir. Le moi psychologique, c'est pas la peine de réfléchir trop longtemps dessus, parce qu'on sait très bien, il se porte très bien, notre petit moi psychologique. Et notre petit moi psychologique, il s'arrondit bien, et il va bien. Il est quelquefois dans une attitude de tristesse, d'angoisse, ou de joie et d'exaltation. Mais c'est notre moi psychologique, pas de problème métaphysique là. Le passage du moi personnel, vous voyez, c'est le désir de trouver un point de vue au-delà du psychologique. Et puis la personne, on passe comme ça. Et ça fait partie de ces douanes qu'on prend et qu'on fait la fraude. Et alors, on reste à un niveau psychologique et on affirme le problème de la personne. Indépendamment de la métaphysique. Et si la psychologie pouvait parler de la personne, on n'aurait pas besoin de métaphysique. Au moins pour la personne humaine. On aurait peut-être encore besoin de la psychologie pour poser le problème de l'existence de Dieu, j'en suis pas encore sûr. Parce qu'au fond, on ferait comme l'effort de Blondel d'arriver à prouver l'existence de Dieu à partir de l'immanence de la personne. Et à ce moment-là, la métaphysique n'a plus aucun rôle à jouer. Parce que si vous supprimez la vraie finalité de la métaphysique, mais vous en supprimez son utilité. c'est pas de la dialectique, la métaphysique. Donc il y a une finalité, la métaphysique. Et une vraie finalité. Et quelle est la finalité de la recherche métaphysique? La découverte de la personne, la découverte de Dieu. Je fais de la métaphysique uniquement pour ça. Découvrir la personne humaine et découvrir Dieu. C'est pour ça qu'on est un peu farouche. Au point de vue métaphysique, au point de vue philosophie première, quand on voit d'autres arriver avec leurs gros sabots politiques ou leurs gros sabots psychologiques et sociologiques, et dire « Ah, nous disons vraiment ce que c'est que la personne. » On dit « Non, non, vous ne savez pas ce que c'est. » Et c'est comme quand un biologiste dit qu'il sait ce que c'est que la vie. « Vous ne savez pas ce que c'est. » Vous en parlez, mais vous ne savez pas ce que c'est. Et vous ne pouvez pas le savoir. Alors, il faut arriver à comprendre cela. C'est un très gros problème. C'est peut-être même le problème majeur d'aujourd'hui, vous voyez, au point de vue profond. Alors, poser la question autrement, parce que c'est bon de la poser autrement, là, c'est d'une façon un peu apologétique et irascible. Alors, il vaut mieux pas, les apologètes sont toujours un petit peu, on la dent dure, hein. Alors, il vaut mieux pas s'opposer de cette manière-là, posez-vous de l'autre manière. La psychologie, ce qu'on appelle les sciences psychologiques, les sciences humaines, peuvent-elles parler vraiment de la personne? Ou présupposent-elles le problème de la personne? C'est là la question. Et l'autre question, est-ce que seule la philosophie première peut parler vraiment de la personne? C'est ça qui me semble intéressant à voir. Et alors, à partir de là, nous verrons pourquoi il y a cet oubli. Mais avant de voir ça, je crois qu'il faut maintenant, puisque nous pouvons traiter cette question d'une façon plus exhaustive, et je veux la traiter d'une façon assez exhaustive, de sorte que nous allons, si vous voulez, suivre un peu la topique. Je m'arrêterai surtout à certains moments, qui est partiel, hein, il faudra la compléter. Et je ne demanderai pas mieux si parmi vous, il y en a qui peuvent la compléter, parce que ça permettrait de compléter cette petite topique sur la personne qui me semble très importante. On arriverait tous ensemble à faire une topique vraie sur la personne, au plan philosophique et au plan théologique, ça vaudrait la peine. Parce que je vous dis, c'est le problème majeur d'aujourd'hui. C'est le problème majeur du côté des psychologues, c'est le problème majeur du côté des théologiens qui s'inclinent du côté psychologique. Alors vous avez cette opposition qui est connue, qui est classique en théologie morale. Les théologiens qui sont du côté de la théologie morale qui se fonde sur la nature et la théologie morale qui se fonde sur la personne. Tout le drame qui a eu lieu à Fribourg il y a quelques années était là-dessus. La théologie de saint Thomas est une théologie de la nature. Il faut inventer une nouvelle théologie morale, je parle de la théologie morale, il faut inventer une nouvelle théologie morale qui soit la théologie morale de la personne. Je ne peux pas répondre à ce problème si je n'ai pas une conception vraie de la personne. C'est impossible. J'y répondrai affectivement, comme les traditionnalistes. Alors j'irai, la tradition est du côté de saint Thomas, je suis du côté de saint Thomas, c'est bien évident. Alors vous retombez lourdement sur une morale qui se dit fondée sur la nature. Et donc vous tombez vous-même dans des exagérations parce que vous êtes dans la lutte et vous tombez dans un point de vue apologétique. Parce que je ne veux pas être du côté modernisant et qui veut la morale, une théologie morale qui repose sur la personne. Et alors c'est tous ces problèmes-là qui sont sous-jacents à ce problème de la personne. Et à ce point de vue-là, c'est difficile, c'est pas commode à dire et je crois que c'est très important. Mais je prends simplement ces deux aspects qui me semblent très importants, du côté théologique, puisque vous faites de la théologie, et du côté philosophique, parce qu'on est constamment en face de ce psychologisme d'aujourd'hui qui veut tout prendre. Alors, ça va très loin si je veux aller jusqu'au bout. Hein. Alors vous voyez, comment un psychologue peut-il vraiment éduquer s'il ne sait pas ce que c'est que la personne? Si tout le problème de l'éducation, c'est de former des personnes, c'est vrai. Tout le problème de l'éducation, c'est former des personnes. C'est pas faire acquérir les vertus. Non, c'est pas ça. Éduquer en faisant acquérir les vertus, ça, on sait ce que ça veut dire. Hein. C'est un certain formalisme moraliste du XVIIe siècle. La véritable éducation, c'est éduquer une personne. Et c'est ça toute la difficulté, éduquer des personnes. Et dans la vie religieuse, c'est la même chose. Si vous éduquez des gens qui sont vertueux, c'est-à-dire qui arrivent à vivre à peu près une vie commune correctement, qui rit quand il faut rire, qui pleure quand il faut pleurer, et qui marche au pas qu'il le faut. Bon, vous éduquez des automates, au bout d'un certain temps. Vous éduquez des gens bien vernis, soi-disant vertueux. Alors que la vie religieuse doit éduquer des personnes, des enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est notre personnalité chrétienne. Or, notre personnalité chrétienne assume notre personnalité humaine. Mais le problème de l'éducation, c'est le problème de la personne. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui cette faillite complète du côté de l'éducation? Il faut la constater, hein, c'est la plus grande des crises. La plus grande des crises, c'est du côté de l'éducation. Éducation familiale, éducation en dehors de la famille quand il s'agit de l'école. Le grand foutoir d'aujourd'hui, c'est l'école. On le sait. C'est le foutoir le plus magistral qui soit. Parce qu'on ne sait plus ce que c'est que l'éducation. On n'éduque plus. Et on ne sait plus ce que c'est que l'éducation parce que, justement, on ne sait plus la finalité de l'éducation, qui est le point de vue de la personne. Alors, tout ça, c'est pour montrer l'importance, hein, pour vous éveiller à ça, et puis que vous-même, vous vous posiez ces questions. Parce que si vous ne vous posez pas ces questions, vous ne comprendrez pas l'importance. Alors que vous-même, vous essayez de comprendre qu'en effet, une éducation ne peut regarder qu'une personne. L'éducation ne regarde pas uniquement l'acquisition des vertus. Un noviciat, ce n'est pas l'acquisition des vertus. C'est former l'enfant de Dieu en nous. C'est former l'enfant de Dieu en nous. Or, former l'enfant de Dieu en nous, le Fils de Dieu en nous, c'est nécessairement assumer notre personne. Puisque la grâce ne supprime pas la nature. Et c'est pas premièrement, vous voyez, le point de vue des vertus. Les vertus sont nécessaires, absolument. Mais ordonnez à la personne. Ce que je vous disais hier, la vertu présuppose la finalité. Si la vertu présuppose la finalité, on éduque en donnant le sens de la finalité, en éveillant à la finalité. C'est la seule manière de pouvoir éduquer vraiment. Autrement, on n'éduque pas. Et donc, on éduque en essayant de comprendre ce qu'est la personne humaine. Et en développant ce que représente la personne humaine. On pourrait ajouter encore, hein, là je vous donne quelques aspects qui me semblent très importants pour comprendre le but de cette recherche que nous faisons. Vous voyez, le but de cette recherche que nous faisons. Alors, premier problème, hein, maintenant nous entrons dans le problème proprement philosophique. Après la petite introduction rapide, nous entrons maintenant dans les topiques, hein, faisons attention. Premièrement, le mot « personne ». Il y a tout un petit laïus à faire là-dessus. Je ne vais pas le faire parce que c'est classique, c'est facile. Cherchez toujours le fameux mot prosopone. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça existe exactement, le mot personne? Vous savez bien que le mot personne est un mot, par rapport à la philosophie grecque, relativement récent. Donc, pour la philosophie grecque, c'est un mot moderne. Hein, toujours intéressant de voir des mots modernes. Mais il reste toujours avec... le point de vue un peu révolutionnaire, le mot personne. Il est né comme ça dans la philosophie grecque. Vous voyez, ousia, c'est le vieux mot. On, c'est le vieux mot. Fousis, c'est le vieux mot. Mais personne, non. Aristote n'a pas éprouvé le besoin d'inventer un mot pour montrer ce qu'il y avait de tout à fait particulier à l'homme. L'homme, pour Aristote, c'est ousia, substance. L'homme, pour Aristote, c'est l'acte. L'homme, pour Aristote, c'est là. Il n'a pas dit personne. Ah, il a dit que c'était un ami, capable d'être un ami, incapable d'être celui qui est sculpteur et donc responsable de ses actes. Mais il n'a pas éprouvé le besoin. C'est quand même très curieux, ça. C'est intéressant de se poser le problème. Il ne faut pas trop s'arrêter, puisque les mots ne sont que les signes. Mais c'est quand même un signe. C'est un signe. Le mot « personne », cherchez bien, vous ne le trouverez pas. vous trouvez le mot hypostasis chez Aristote. Hein, vous savez bien, hypostasis. Le mot hypostasis qui fera fureur chez les pères de l'Église et qui sera si important chez les pères de l'Église parce que ça rejoindra le mot personne. Et saint Thomas le dit. Et donc vous avez le témoignage dans saint Thomas. Le mot hypostasis chez Aristote, vous savez bien, c'est la première signification. Aristote, fils de médecin, c'est très bien que hypostasis, c'est le dépôt de l'urine. Hein? Ce mot si noble, si grand pour les théologiens, a sa première signification de cette manière-là. Quand un liquide est trouble, vous le laissez déposer, normalement, les choses un peu lourdes vont dans le fond. Le dépôt, hypostasis. Je trouve ça admirable pour ceux qui font des philosophies sur les mots. Vous voyez, alors vous voyez ce que ça ferait. Hein, le mot hypostasis pour le mot personne attribué à la très sainte Trinité. Hein, ça va quand même loin. Hein, c'est quand même. Alors, c'est ce qui montre qu'on ne peut pas faire d'une philosophie, une théologie au niveau des mots. On aboutit à des idioties de premier ordre. Alors, c'est quand même intéressant. C'est pour ça qu'il faut le soulever, parce que c'est le lieu le plus magnifique. Le mot le plus noble qui soit, c'est le mot personne. Le mot personne n'existe pas dans la philosophie d'Aristote. Bon, c'est pas étonnant, c'est une philosophie de la nature. Vous diront grossièrement les gens. Hein, c'est une philosophie de la nature. Alors, puisque c'est une philosophie de la nature, le mot personne n'existe pas. Aristote n'a pas su du tout ce que c'était que la volonté. Il ne sait que ce que c'est que le mot. Tout ça, c'est pas vrai. Il sait très bien ce que c'est que l'homme. Il sait très bien ce que c'est que le nous. Il sait très bien qu'il y a un gros problème, un problème terrible qui s'est posé. Le lien entre la phusis et le nous. C'est tout le problème du De Anima. Le lien entre la phusis et le nous. Il le sait. S'il avait pu inventer un mot personne, il faisait la synthèse du nous et de la nature. C'est quand même très extraordinaire, ça. Il faisait la synthèse. Or, de fait, non. Il est resté devant le problème. Et il n'a pas trouvé le mot. Ça, il faut bien le reconnaître. Hein. Il faut reconnaître que là, il y a dans la philosophie d'Aristote, je ne dis pas un trou, un vide, non. Je constate. Le mot personne n'est pas chez lui, comme il n'est pas chez Platon. Ces grands philosophes de la personne n'ont pas parlé de la personne. Alors, certains diraient, vous savez, on parle beaucoup quand la réalité n'est plus là. Quand la réalité est là, on n'a plus besoin de parler. Alors, Aristote est tellement convaincu de la réalité de l'homme et de la dignité de l'homme qui n'a pas besoin d'inventer un mot, et qui dit l'homme, et qui dit que l'homme a quelque chose d'unique par rapport à l'animal. Nous, nous avons tellement de peine de distinguer l'homme de l'animal, parce que les hommes sont redevenus plus proches des animaux, alors nous avons tellement de peine de distinguer le point de vue de l'homme de l'animal, que nous avons besoin d'une étiquette. Hein. Alors nous mettons une étiquette personne, et pour beaucoup c'est une étiquette, parce que la réalité est oubliée. Je peux renverser, vous voyez, le problème, c'est très intéressant, ça. Je peux très bien renverser le problème, parce que c'est très vrai, c'est comme ça. C'est quelquefois les mots qui remplacent la réalité. Quand la réalité est là, on sait. C'est un fait, ça c'est un très gros problème, mais très intéressant à souligner, parce que c'est un problème du langage, et comme la philosophie du langage est à l'honneur aujourd'hui, il faut le comprendre. Et c'est un, je crois que ce serait un exemple merveilleux pour faire sauter la philosophie du langage, comme philosophie. C'est une arme particulièrement bonne, celle-là. Parce que c'est une arme qui est à la fois très, très actuelle et une arme qui montre que, de fait, chez des grands philosophes comme Platon et Aristote, le mot n'y est pas. Alors vous allez me dire, c'est très simple, parce que ces gens-là sont avec leur temps et le mot « personne » n'y est pas, parce que, au fond, le mot « prosopone » signifie « personnage », tout à fait autre chose. Le mot « prosopone » avait une autre signification, c'était du côté artistique. C'était pris du côté artistique. Ce sont des mots qui sont nés avec le tragique, avec l'art tragique. Le mot prosopone, c'était le personnage qu'on jouait. Vous voyez le personnage qu'on jouait. C'est amusant du reste de voir ça. C'est le personnage qu'on jouait. On jouait un rôle. Pour beaucoup de personnes, leur personne, c'est le rôle qu'elles jouent. Alors ils sont au niveau du théâtre. Alors à ce moment-là, il vaut mieux dire, la vie est un théâtre. et je joue ce rôle dans la vie. Et ça, je joue ce rôle particulier. Alors, faites tomber le décor, il ne reste plus rien. Alors, c'est ça, c'est intéressant de voir que le mot prosopone est du côté tragique. C'est du côté tragique que vous voyez le mot prosopone. Donc le mot personnage qui joue ce rôle de fonction. Mais le mot proprement personne comme pour désigner ce qu'est la personne humaine n'existe pas. Donc le mot personne s'est introduit en philosophie avec les stoïciens. Et avec les stoïciens, on peut dire que d'une certaine manière, le mot personne a tout de suite été orienté vers le point de vue éthique. L'entrée du mot personne, du mot, hein, pas de la réalité, mais du mot personne en philosophie, c'est par le point de vue éthique. Vous voyez, l'art et l'éthique, la tragédie et les stoïciens, c'est intéressant à voir. La tragédie prosopone, le personnage, le rôle, et les stoïciens, la personne responsable, volontaire, le fait de dominer. Et on peut dire que c'est la traduction latine persona qui alors s'est développée beaucoup. Et ça s'est développé en chrétienté. Ça, c'est un phénomène très particulier d'un mot qui s'est développé en chrétienté. Agapé persona. À la différence, c'est que persona est déjà présent chez les Grecs, hein, les stoïciens. Agapé, moins. Un tout petit peu, mais moins. Alors, il y a le mot personne, il y a le mot personnalité. Et bien voir comment on est passé du concret à l'abstrait. Donc le mot personne indique quelque chose de concret. Et le mot personnalité est venu après pour essayer de préciser ce par quoi la personne est personne. Et c'est au fond le problème qui a fait qu'on a commencé à spéculer sur la personne, pour voir qu'est-ce que c'est que la personnalité. Et quand vous voyez aujourd'hui, vous voyez que le mot personnalité est employé constamment. La personnalité de quelqu'un. Alors, je comprends pas. Une personne, oui, je comprends. Mais la personnalité. Ah, cette personne, elle a beaucoup de personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Un mot abstrait, hein? Blanc, blancheur, personne, personnalité. Bon, je ne dis pas plus. Regardons point de vue topique. Alors, je vous ai dit, je ne vais pas y revenir trop longtemps, mais c'est quand même intéressant de voir qu'au point de vue topique, le mot personne est un mot moderne pour les Grecs. Mais la réalité, quand a-t-elle commencé? Je crois que la réalité de la personne humaine, sans mettre le mot, c'est peut-être Socrate, le premier. Vous voyez, avant Socrate, l'homme est tellement lié à la cité qu'au fond, il y a bien un problème d'amitié, mais très lié à la cité. Il y a bien le problème du héros. C'est peut-être le héros qui aurait représenté le mieux un individu qui émerge. Et puis il y a le problème du sage. Alors on pourrait dire qu'en philosophie grecque, je crois que les premiers aspects de la personne, c'est le sage et le héros qui apparaissent. Indépendamment du mot, hein. Mais la réalité, par où vous émergez? Parce que la famille est tellement liée à la cité. Alors vous pourrez me dire que le pater familias, hein, le père de famille, mais le pater familias, c'est en latin. Et c'est le latin qui est venu, ça, c'est les stoïciens qui ont donné ça. Et c'est après. Je ne crois pas que le père de famille, dans la philosophie grecque, regardez chez Hésiode, ait un rôle si important. Il exerce une certaine autorité économique, puisque c'est le père de famille et l'économie est liée à la famille. C'est le père de famille qui doit organisée et ordonnée. Alors vous auriez peut-être là, au niveau éthique et au niveau éthique familiale, quelque chose d'important par rapport au travail. Mais c'est pas net, c'est pas précisé. Je crois que beaucoup plus, parce qu'on l'a dit, avec Homère, c'est une éthique chevaleresque, c'est une éthique de héros. Et donc la personne est née du côté du héros. Et la personne est née du côté politique avec le sage, le législateur. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'à l'intérieur de la famille, le problème de la personne s'est posé. Parce que la personne est tellement liée à la communauté, à l'aspect politique. Mais le dépassement de l'aspect politique, c'est quand vous sauvez votre pays. Sauver un pays, c'est le héros. Hein. Sauver le pays, c'est vraiment celui qui le dépasse, parce qu'il devient source. Et le sage, c'est celui qui donne des constitutions. Alors, c'est intéressant de voir qu'au fond, les deux émergences, pour employer l'aspect moderne, les deux émergences par rapport à la communauté humaine, par rapport à la nature, les deux émergences, c'est le héros et le sage. Je crois que nous pouvons dire ça. Le premier qui a le souci de regarder l'autonomie de n'importe quel homme, c'est Socrate. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que Socrate est le premier qui découvre une éthique individuelle et personnelle. Tandis qu'avant, on ne peut pas le dire, c'est une éthique communautaire. Avec les deux sommets, le héros et le sage. Je crois que ça peut être intéressant, parce que ça montrerait que la première manifestation de la personne, la première manifestation de l'autonomie de l'individu, et d'un individu qui prend une responsabilité à l'égard des siens, c'est le héros et le sage. Puis Socrate. Alors Socrate, c'est tout à fait différent. Socrate, vous le savez bien, c'est très difficile de le connaître, puisqu'on ne le connaît qu'à travers des miroirs déformants, ou des miroirs qui essaient, je crois que les trois sont déformants, Aristophane, Xénophon, Platon, trois miroirs déformants. Mais c'est très difficile de savoir quelle est, et jusqu'où va la déformation, et quelle est la véritable déformation, puisque je ne connais pas Socrate. Je ne connais qu'à l'intermédiaire de tout cela. Alors, il y a le Socrate philosophe, il y a le Socrate courageux, héros, et il y a le Socrate qui cherche et qui se laisse prendre au bout du temps. Je ne dis pas nécessairement qu'il est sophiste, mais il est dans l'air sophiste. Donc celui-là ne nous intéresse pas, c'est avant sa conversion. Ça intéresse uniquement les historiens et qui veulent, dans les vides saints, assister surtout avant la conversion, puisqu'une fois qu'ils sont convertis, ils sont plus intéressants. Bon. Tandis qu'avant la conversion, c'est très intéressant. Ils sont pris par les passions, c'est très intéressant. Alors là, il y a beaucoup de choses. Tandis qu'après qu'ils sont convertis, ça n'a plus rien d'intérêt. Bon. Eh bien, c'est vrai qu'au point de vue philosophe, ce qui m'intéresse chez Socrate, c'est sa conversion. C'est ça qui m'intéresse, puisque sa vocation philosophique est là. Et sa conversion, c'est ce connais-toi toi-même, l'oracle de Delphes. L'oracle de Delphes, c'est toujours impressionnant à ce point de vue-là, de voir que la conversion de Socrate est une conversion intérieure. Il a fait une retraite à Delphes. Et il y avait un bon prédicateur, puisqu'il y avait la pitié. Alors il y avait l'oracle de Delphes qui lui a dit et qui lui a fait comprendre qu'il fallait échapper à la cité, qu'il fallait aller au-delà de la cité et qu'il avait tout en lui-même pour échapper à la cité, qu'il possédait en lui-même quelque chose de suffisamment grand pour pouvoir être au-delà de la cité. et comprendre ce qu'il y a de premièrement intéressant, c'est cette réflexion intime, profonde sur soi-même. Connais-toi toi-même. Il ne dit pas la conscience de soi, ça c'est moderne, mais il dit la connaissance de soi. Et c'est peut-être le premier moment d'une prise de connaissance de ce qu'est la personne. Parce que nous découvrons là l'autonomie fondamentale de chaque individu. Et cette autonomie provient de la connaissance qu'on a. Mieux on se connaît, plus on est autonome. Pas d'autonomie sans la connaissance, ce qui est parfaitement vrai. Et à ce point de vue-là, vous voyez, je crois qu'on peut dire que Socrate est quand même le premier à dépasser l'éthique pour découvrir ce qu'il y a de principal dans l'éthique. Il fonde l'éthique en la dépassant, ce qui est du reste, au fond, normal. C'est l'éthique qui reste uniquement au niveau famille et éducation des vertus ne suffit pas. Alors, il la dépasse, et il y a un dépassement chez Socrate. Je ne dis pas que ce dépassement est explicité parfaitement, mais il est vécu. Connaître, se connaître soi-même. Connais-toi toi-même. Donc, il y a là la découverte de l'autonomie. Alors, cette découverte de l'autonomie, si j'écoute Platon, se fait par une acquisition des vertus. Mais voyez, ce serait très faux de dire que Socrate, c'est celui qui va nous donner une éthique de vertu. C'est pas juste. C'est l'éthique de la connaissance de soi. Beaucoup plus fort, c'est l'éthique de la connaissance de soi. Et cette connaissance de soi va nous permettre d'acquérir des qualités qui nous permettront, à l'égard de nos proches, à l'égard de la cité, d'être quelqu'un. Oui, d'être quelqu'un, c'est très significatif, d'être quelqu'un autonome. Une personne. Première dimension, premier axe de la personne, c'est la connaissance de soi. Chez Platon, y a-t-il quelque chose de nouveau par rapport à la personne? Comparativement à Socrate, puisque si c'est vraiment l'intuition dominante et première de Socrate, découvrir l'autonomie de la personne, découvrir sa propre connaissance de soi, si c'est cela qui domine chez lui et qui est l'axe profond. Chez Platon, il y a un souci de prolonger cette connaissance de soi. Et cette connaissance de soi, il va dire, c'est la connaissance de l'âme. C'est pour ça que je crois que le grand axe de toute la philosophie de Platon, c'est la recherche de la connaissance de l'âme. À ce point de vue-là, il y a un côté plus universel que Socrate. Parce que Socrate, connaissance de soi, c'est la connaissance de l'âme, c'est sûr. Mais ce n'est pas dit de façon explicite. Dès qu'on dit connaissance de l'âme, il y a un point de vue, on dirait, un point de vue plus de l'ousia. Et c'est vrai. Je crois que Platon, c'est le fondateur de l'ousia. C'est celui qui découvre l'ousia. Certains ont dit, et je crois que ça reste juste, qu'avant Socrate, on ne parlait pas de l'ousia. On parle de la phusis. Si même dans les fragments des pré-socratiques, le mot ousia se trouve, on croit bien que c'est quelque chose d'ajouté après. Et je serais assez partisan de cela, c'est de dire que c'est vraiment Socrate qui a mis la piste, l'orientation de la découverte de l'ousia, par l'autonomie. tant qu'on n'a pas découvert l'autonomie, on ne peut pas découvrir ce que c'est que la substance. On découvre uniquement la phusis. Et la phusis ne nous fait pas découvrir l'autonomie. La phusis est uniquement un principe de mouvement, un principe de devenir, un principe d'opération. Alors, Socrate nous permet sur l'orientation de la découverte de l'autonomie par la connaissance. Et vous n'avez qu'à réfléchir. Vous êtes autonome dans la mesure où vous connaissez. C'est pour ça que c'est si difficile d'introduire dans la vie religieuse des études philosophiques. Et que certains, je vois très bien au début de l'ordre, parce que là je connais historiquement, certains permettent au début de l'ordre, disant « Surtout pas d'études !» Vous ferez des êtres indépendants. Soyez des abrutis, vous serez des êtres religieux, vous voyez, hein, caricature, hein. Mais c'est ça, parce que l'intelligence, le développement de l'intelligence, nous donne une autonomie. Et ça c'est vrai, ça pose un problème, il faut le voir, parce que si on veut le cacher, ça ne signifie rien du tout. L'intelligence, le développement de l'intelligence, va servir à la contemplation. Alors, si on a une vie monastique contemplative, la nécessité de l'intelligence. Si on a une vie monastique liturgique, pas besoin. Il vaut même mieux pas. Il vaut mieux, un tout petit peu, pour passer des examens pour le sacerdoce. Mais si on n'a pas de sacerdoce, surtout pas d'études. Alors notre bon frère convert, qu'on fait travailler du jour au lendemain, on l'a dit, vous réciterez uniquement le rosaire, hein, et puis c'est tout. Puis pas d'intelligence. C'est mieux. Ils seront plus souples. C'est très curieux, ça. Très, très curieux. Mais c'est très intéressant à saisir l'origine. En philosophie grecque, on voit très, très bien, ça. C'est très net, le passage, vous voyez, de la phusis à l'ousia. Le passage de la phusis, de la nature, à l'ousia. Et ce passage se fait grâce à Socrate. Ça, on ne l'a pas dit assez. Et ça me semble de plus en plus clair. Moi. Que c'est Socrate qui découvre l'autonomie. Et il a été jusqu'au bout de l'autonomie. Quand il a bu la ciguë. Il a été témoin de l'autonomie en prenant la ciguë. En disant les lois de l'État, très bien, respectons-les, mais ça ne signifie rien du tout. Moi, ma véritable autonomie, elle est toute là. Et c'est ça qu'il veut montrer. Et il y a une espèce de j'allais dire, chez Socrate, un témoignage de la découverte de la grandeur, de la dignité de l'autonomie de l'homme. Alors, si c'est ça la personne, vous voyez bien, l'homo n'y est pas, mais c'est Socrate qui est le premier, au-delà de la phusis pré-socratique, découvre l'autonomie de l'homme. Et une autonomie qui va jusqu'au fait qu'on peut obéir à l'État en prenant la ciguë sans toucher la dignité de l'homme. Alors à ce moment-là, il relativise énormément l'obéissance à l'État. Pour montrer que l'obéissance à l'État, c'est second. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand, c'est l'autonomie de la personne. Et d'être fidèle alors à cette autonomie profonde de la personne. Vous voyez ? Oui, oui, oui. Je fais au point de vue philosophique le logos. Hein. Les traditions religieuses sont sous-jacentes. Elles sont depuis Hésiode. Elles sont avec Homère. Prenez bien le problème que nous cherchons. Hein. Une topique, voir comment la personne apparaît. C'est pas la personne religieuse qui est première. Oui. Le point de vue religieux, selon les traditions religieuses grecques, ne vous donne pas. Ça vous donne le culte. Ça ne vous donne pas la contemplation. La contemplation va naître avec Platon, grâce à l'autonomie. C'est ça que je cherche, vous voyez. Vous faites bien de soulever le problème, mais exprès, je cherche uniquement le point de vue de la personne. Vous voyez, le problème général philosophique, bon, on insiste beaucoup sur les traditions religieuses, et je suis tout à fait d'accord, il faut. Ici, j'ai un problème particulier, petite topic spéciale, très importante, et je crois qu'elle est très importante pour nous. C'est de voir comment est née cette réflexion philosophique sur la personne. Je constate qu'elle est née sans le nom. Alors, le nom, ça m'aide beaucoup, hein, Les topics historiques, ça va très vite quand on a le nom. Mais quand on n'a pas le nom, c'est très difficile, il faut chercher les sources souterraines. Et c'est ça la difficulté. Et pourtant, c'est très important de chercher à quel moment il y a émergence. Eh bien, je dis que le premier moment d'émergence, c'est Socrate. Oui. Parce que c'est la découverte de l'autonomie. Avant, c'est la phusis. Il y a toujours eu des personnes, hein. Et c'est pour ça que j'ai dit le héros et le sage. Il y a toujours eu des personnes. Mais ce que je cherche, c'est la conscience qu'on a de la personne. Conscience philosophique. Réflexion sur ce que c'est que la personne. Premier moment, l'autonomie. Connais-toi toi-même. Oui. Alors, Platon reçoit ça. Qu'est-ce qu'il va ajouter? Il va montrer que cette autonomie ne sera plénière que dans la contemplation. Alors ça, c'est très important aussi. C'est de voir que ce n'est pas le point de vue moral. Le danger de Socrate, c'était de ne pas être... Socrate avait une vie sûrement intérieure et qu'on dirait mystique. La fidélité aux voix. Mais fidélité aux voix intérieures. Mais Socrate, je ne crois pas, parle de contemplation. Je crois que c'est Platon le premier qui parle de contemplation. Et qui, par le fait même, va nous montrer, voyez, au-delà du point de vue religieux, l'autonomie de la personne. C'est pour ça que le point de vue religieux ne fait pas naître la personne. C'est très significatif, ça. C'est de même très, très curieux. Ce serait très intéressant à voir. Les traditions religieuses vont faire naître un culte, vont faire naître une exigence d'adoration, mais ne cultivent pas le point de vue de la personne. Mais, alors, on verra, on va le récupérer au terme. Hein, en fait, je récupérerai au point de vue religieux le point de vue de la personne, croyez bien. Mais ici, historiquement, ce n'est pas les traditions religieuses qui ont été l'éclosion. Vous allez me dire, ce qu'il y a de plus pur dans les traditions religieuses,